qu'on roule à travers un paysage aride, puisque là on trouve le soleil et même la chaleur, un paysage désertique, où pourtant on voit des touffes de vert quand même, de temps en temps, ces fleurs, rouges, jaunes.
Oui, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous ne râliez pas un peu plus, parce qu'il y a des jours où il y a de la brume, on ne voit rien, c'est extrêmement monotone, c'est route droite. Dans la BST, il y a des jours où on roule beaucoup. Pourquoi ? Pour avoir le luxe ensuite de marcher, de méditer au rythme de la marche, comme cela, il faut rouler pour pouvoir, dans les paysages les plus riches de signification, marcher, puis méditer, lire les textes au rythme de la marche. Alors aujourd'hui, c'est un jour où on roule beaucoup, on n'a pas de chance, il y a de la brume.
Alors nous nous trouvons ici dans le désert de Paran.
D'abord, si ça peut vous consoler, j'ai eu dans mes groupes une fois un aveugle-né. Et c'est curieux, il avait un registre imaginatif aussi riche que le nôtre, une couleur, tout ça, ça lui parlait. Et alors, il a eu cette phrase, moi. D'abord, ça m'a mis par terre. La BST, j'arrange de faire parler à Terre Sainte, il m'a dit, moi, au moins, je ne suis pas distrait par le paysage. On peut faire la BST même si on est aveugle, en fin de compte, si important que ça soit, ça reste malgré tout secondaire. La redécouverte de la Bible peut se faire sans... Il faut centrer l'attention sur le principal pour que tout ce qu'on voit dans une journée se cristallise autour d'un noyau. Là. Alors aujourd'hui, si vous voulez, c'est au commencement. La pédagogie divine dont nous suivons les lois demande qu'on aille chercher les choses au commencement, qu'on aille ramasser notre être dans ses virtualités originelles. Et si nous faisons tous ces kilomètres, c'est parce que pour prendre les choses au commencement, je ne connais pas de paysage plus extraordinaire que la montagne des Lattes, la charnière du Sinaï, et puis du Negev monotone où nous sommes maintenant. Alors nous allons vers Elats. Et dans la Bible, vous remarquerez que quand on va vers le sud, on franchit comme trois seuils. C'est intéressant encore ces grandes lois géopolitiques. Il y a d'abord le seuil qu'on a franchi lorsqu'on est passé à Beersheba. Enfin, la terre promise étant de Dan à Beersheba. C'est un leitmotiv qui revient très souvent. La béatitude au temps de Salomon, c'est de faire la sieste là sous sa vigne et son figuier entre Dan et Beersheba. Mais c'est pas pour autant la limite sud de la terre promise. La frontière sud de Canaan, qui devient la frontière sud de Juda après la conquête, elle est dans le livre des Nombres. Part de l'extrémité sud de la mer salée, de la mer morte. Elle passe dans le désert de Tsin. C'est le Nahal Tsin qu'on a franchi tout à l'heure, là, ce magnifique canyon qu'on a pu contempler. Et puis ensuite, elle part du côté de Kadès Barnéa, dont on parle beaucoup dans la Bible. C'est le seul point qui soit vraiment important et fixe, là, identifié. Et puis ensuite, elle continue pour rejoindre la Méditerranée aux environs de El Arish actuellement. Alors, on a déjà franchi ce deuxième seuil. Mais vous remarquerez que tout au cours de l'histoire, et pas seulement dans la Bible, tous ceux qui ont dominé dans la Terre Sainte ont cherché à avoir une fenêtre là-bas à Elat sur la mer Rouge. David déjà a conquis aux Édomites la ville de Elat, il semble qu'il n'a pas réussi à la conserver, mais Salomon lui a construit un port, Etzion Gaber, et ses grands amis les Phéniciens l'ont initié à l'art de la navigation sur la mer Rouge. Curieusement, le premier port dont on parle dans la Bible, c'est pas sur la Méditerranée, c'est là-bas sur la mer Rouge, on en parlera. Et les rois de Juda ont poursuivi cette politique tout au long de la Bible. Là, à l'époque des croisades, j'ai entendu parler de Renaud de Châtillon, un espèce de grand aventurier là, qui a démonté une flotte méditerranéenne en pièces détachées, qu'il a transporté à d'autres chameaux tout le long de la Araba, que nous remonterons là en revenant. Et il était seigneur de Kérak, un château qui est quelque part là-bas dans les montagnes de Moab. Il a remonté sa flotte là-bas à Elat et il a navigué jusqu'aux environs de la Mecque et de Médine. Mais c'était en même temps quelqu'un qui n'était pas loyal. Et Saladin ne l'a pas raté à la bataille des cornes de Hatti, qui a mis par terre d'un seul coup le royaume franc de Jérusalem. Et ici, à l'époque moderne, l'État d'Israël, à peine fondé, a cherché aussi à avoir sa fenêtre sur la mer Rouge. Et c'est une donnée géopolitique générale tout au long de l'histoire. Et ça serait très dommage de ne pas aller à Elat. Vous verrez que c'est là qu'on est le mieux pour évoquer le commencement et puis renouveler en nous cet émerveillement dont nous avons besoin, qui est tellement atrophié actuellement. On a besoin de renouveler l'émerveillement. Il y a plus, vous me direz, dans l'évangile que dans Salomon dans toute sa gloire. Il y a plus dans une fleur des champs que dans Salomon dans toute sa gloire. Il y a plus dans la fraction du pain que dans le culte. Mais il faut réveiller l'émerveillement pour s'en apercevoir. Alors on va réveiller l'émerveillement dans l'exceptionnel là-bas à Elat. Et maintenant nous sommes en route. Mon but, voyez-vous, au sommet de la journée, c'est de relire le premier chapitre de la Genèse, au commencement. Prendre les choses au commencement. Et les professeurs vous diront que ce texte qui est très très construit, très sophistiqué, mathématique construit, est un texte tardif de l'époque perse lorsqu'il s'agissait de lutter contre un certain manichéisme là, qui mettait la suspicion sur les valeurs de beauté. Et alors maintenant, nous sommes en route vers le commencement. Et c'est peut-être pas mauvais que cette longue route nous permette de repasser un petit peu toutes les étapes par lesquelles le peuple hébreu est arrivé à poser au début ce magnifique chapitre qui ensuite, vous le verrez de plus en plus, informe toute la Bible selon le rythme de la semaine qui aboutit au Shabbat. C'est pas du premier coup, on a mis longtemps à comprendre qu'il fallait commencer par le commencement. Encore une parenthèse, c'est pas une raison parce qu'on a mis longtemps à comprendre qu'il fallait commencer par le commencement, de ne pas commencer par le commencement maintenant dans le domaine de la catéchèse. Quelquefois, on transpose dans le domaine de la catéchèse et de la pastorale des conclusions scientifiques, et c'est pas toujours très, très opportun. Une de mes joies les plus grandes, c'est de regarder les poissons là, qu'on peut rejoindre dans les coraux des mers du Sud à travers les yeux des gosses qui sont là dans la tour sous-marine du musée océanographique des Lattes. L'émerveillement devant les beautés de la nature. Le langage, le premier des langages que Dieu parle depuis les origines du monde dans la nature, on va se mettre à l'écoute de ce premier langage, avant de se mettre à l'écoute de tous les autres langages, et avant d'entendre celui qui accomplit tous ces langages dans la simplicité de l'évangile. Alors ici, tenez, on va prendre un texte que nous propose le paysage. On est en route vers Eilat et on a traversé déjà le désert de Tsin, on traverse maintenant le désert de Paran. Il y a des crues, vous n'imaginez pas, ça on est en plein désert, mais quand l'eau se met à couler ici, il faut arrêter la circulation, il faut que les bulldozers passent ensuite pour dégager la route. Et est-ce qu'on parle du narral Paran dans la Bible ?
C'est le cantique
d'Habacuc. Alors, je voudrais vous faire sentir ici quelque chose de... On parle toujours de la Bible, on se sert de la Bible pour faire des exercices de démythologisation. Et moi, je crois au contraire qu'on devrait considérer la Bible comme une école de démythologisation. Et c'est admirable de voir comment, à partir de l'expérience qu'ils ont vécue au long des siècles de leur histoire, aux prises avec ce Dieu vivant dont on a parlé déjà, ils sont arrivés à des convictions qui leur ont permis de démythologiser les cosmologies des civilisations avoisinantes, phéniciennes, égyptiennes, babyloniennes. C'est à partir de leur expérience du Dieu vivant qu'ils ont purifié. C'est curieux de voir comme le langage des interventions de Dieu dans l'histoire, dans la Bible, est le même langage que les interventions de Dieu dans les cosmogonies, dans la création du monde. Et vous savez que dans les cosmogonies païennes, les dieux au pluriel sortent du chaos et puis se battent, et puis de la lutte gigantesque des dieux résulte ces grands récits de la création. Et alors ici, vous avez un dieu, mais qui domine le chaos primitif, qui dans les textes archaïques a comme besoin de se fâcher, d'engueuler, disons le mot, gare en hébreu, les éléments pour qu'ils se mettent en place. Rappelez-vous le psaume 104, là, les montagnes qui s'abaissent, les vallées qui s'exaucent, etc. Dieu qui engueule les éléments pour qu'ils se mettent en place. Dans le premier chapitre de la Genèse, il parle et puis c'est fait. Il y a une autorité. Mais alors, petit à petit, on arrive à cela. Et tenez le cantique d'Habacuc, là, lisons plutôt les textes, on va voir ça. C'est un langage sonore. Je crois que notre langage est devenu exsangue, anémique. Le père Jousse, là, le jésuite, parle d'une algébrose. Et on aurait tendance à raplatir le langage pour qu'on comprenne plus vite. Il faut que le langage ait une beauté sonore énigmatique. Et c'est ça qui met l'intelligence en route. Prenons un exemple tout simple. Vous racontez à un gosse le petit chaperon rouge. Pour qu'il comprenne mieux, vous dites « tire le verrou, la porte va s'ouvrir ». Bon, il restera sans bouger. Vous dites « tire la bobinette et la chevillette chérera ». À ce moment-là, son intelligence va se mettre en route. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Vous connaissez, c'est le principe théologique « fides quaerens intellectum ». Par la foi stimule l'intelligence dans un langage beau et énigmatique, enchanteur. C'est pas par hasard que Dieu a parlé comme ça. Et l'intelligence, alors, se met en route, pas aussi loin que possible, dans cet océan de lumière qu'est le mystère qui lui est proposé dans un langage poétique et symbolique. Je ne crois pas qu'on rende service aux gens en raplatissant le langage. Il faut mieux le proposer dans toute sa beauté, et puis ensuite le transmettre en expliquant. Les traductions, à mon avis, c'est un faux problème. Il ne s'agit pas de... C'est toujours insatisfaisant, une traduction. Dans le judaïsme, vous avez le texte original qui ne bouge pas, qui est erratique, qui est... On ne peut pas y toucher. Les lettres sont comptées et tout. Et puis vous avez à côté, c'est non pas une traduction, tirgoum, mais vous avez une paraphrase qui, elle, peut changer en fonction des gens à qui on s'adresse. Et je crois que c'est ça, c'est comme ça. Il faudrait que ceux qui sont chargés d'enseignement, de catéchèse, de prédication, soit aussi directement que possible abouché aux langues originelles, qui se l'approprient intérieurement. avec tout leur être, et puis que ensuite, et l'adaptation doit se faire automatiquement en fonction des gens à qui il a affaire, il porte son fruit en donnant ce qu'il comprend, en paraphrasant. Quand il voit dans les yeux des gens qui pigent pas, il prend un autre mot et puis il paraphrase. Lisez le livre de Néhémie. Lire la Bible, on dresse une estrade et des gens, des scribes, des gens qui s'y connaissent, alors montent sur l'estrade et puis font une lecture en faisant comprendre. Je crois que actuellement ce problème des traductions, c'est un peu à côté de la plaque. Et il faudrait que ceux qui sont chargés de prédication la connaissent de plus en plus les langues originelles et puis ensuite prêchent, enfin, racontent. Bon, revenons à cette idée. Nous allons en marche vers le commencement. Il faudrait vous montrer comment la Bible est une école de démythologisation et comment, à partir de l'expérience vécue dans l'histoire, le peuple juif a démythologisé les cosmogonies des civilisations environnantes pour arriver à ce texte que nous lirons dans la beauté de la montagne des Lattes, là, même dans le musée aux poissons, s'il n'y a pas trop de monde, le premier chapitre de la Genèse, au commencement. On va prendre les choses au commencement. De Habakkuk, le prophète. « Dieu, j'ai appris ton renom. En notre temps, fais-leur revivre, fais-leur connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi d'avoir pitié. » Eloah vient de Théman et le saint du mont Paran. Sa majesté voile les cieux, la terre est pleine de sa gloire. Son éclat est pareil au jour, des rayons jaillissent de ses mains. C'est là que se cache sa force. Il se dresse et fait trembler la terre, il regarde et fait frémir les nations. Vous voyez le langage des cosmogonies et le langage de l'histoire dans un même verset. Il se dresse et fait trembler la terre, il regarde et fait frémir les nations. Alors les montagnes éternelles se disloquent, les collines antiques s'effondrent, ces routes de toujours. Tu t'es mis en campagne pour sauver ton peuple, pour sauver ton oint, ton messie. Tu as abattu la maison de l'impie, mis à nu le fondement jusqu'au rocher. Tu as foulé la mer avec tes chevaux, le bouillonnement des grandes eaux. Et alors à la fin, ça se termine par un langage qui ressemble étonnamment à celui du Magnificat. On dirait qu'au terme de toutes les transpositions, de toutes les spiritualisations, la Sainte Vierge a gardé quelque chose de ce langage de chair et de sang. Qui n'est pas un langage anémique, exsangue, algébrosé, mais qui est le langage alors de la tradition où elle s'enracine. Je me réjouirai dans le Seigneur, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. Seigneur mon Dieu, tu es ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches sur les cimes, il porte mes pas. Voilà ce langage de la Bible. Ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est dommage de ne pas de raplatir ce langage, ce problème des traductions. C'est dans la ligne toujours de cette marche vers le commencement, et il faudrait aussi citer le psaume 104. On y trouve les mêmes images, pas la même énumération de toutes les créatures que dans le chapitre de la Genèse, mais alors on est encore très loin de cette construction mathématique harmonieuse extrêmement sophistiquée du premier chapitre de la Genèse. Tandis que dans la Genèse, Dieu parle et tout se met en place par ça, comme ça. Dieu dit et la lumière fut. Ici, à ta menace de l'abîme, tu la couvres comme d'un vêtement sur les montagnes, soutenir les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite. À la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes, elles descendent des vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Et alors déjà maintenant, on peut commencer à se remettre à l'écoute de ce premier langage que Dieu parle dans la nature. Déjà cette nuit là, si vous avez mal dormi, vous avez pu voir les cieux qui racontent la gloire de Dieu, comme dit un autre psaume. Il fit la lune pour marquer les temps. Et ce psaume 104 est là. Et c'est un psaume qui nous invite à écouter cette parole de Dieu qui s'exprime dans la nature, dans la création, et de rebondir dans la bénédiction. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste, d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. On est fait pour ça. Il y a ce verset étonnant aussi. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre, mais si tu caches ta face, ils s'épouvantent, tu retires leur souffle, ils expirent, à leur poussière, ils retournent. Beaucoup de spiritualité qui se cherche à partir du souffle. Dans la Bible, c'est tout simple. Notre consistance dans l'être dépend de ce va-et-vient de la respiration. À chaque moment, on reçoit la vie, à chaque moment, on expire. Viendra un moment où on rendra notre dernier souffle, mais dans la certitude que Dieu, à qui on remet notre souffle, peut nous le rendre. Tu caches ta face, ils s'épouvantent, tu retires leur souffle, ils expirent, à la poussière, ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. On devrait méditer là-dessus. Et puis encore
encore une fois, ce n'est pas plus difficile pour Dieu de recréer que de créer. Et la certitude de la résurrection d'un Dieu qui mène par-delà la mort, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qui est né dans la certitude, dans le réalisme de l'histoire. Et alors on est fait pour chanter, déjà. En écoutant ce premier langage, on est fait pour rebondir de tout notre être. Et vraiment dans la catéchèse, là c'est bon qu'actuellement on redécouvre ça. Que l'enfant s'émerveille et puis que rien ne vienne inhiber ces spontanéités de rebondissement dans la reconnaissance. L'homme qui est, de par sa condition même, un être royal et sacerdotal, prend possession du monde et puis rebondit dans l'action de grâce. Il fait l'hommage, comme dit Claudel, à Dieu de toute la création. Et alors, je veux chanter à Dieu tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire. J'ai ma joie dans le Seigneur. Et alors cette joie s'accompagne, un verset, quelquefois maintenant dans les psautiers, on met entre parenthèses pour ne plus les dire, certains langages qu'on trouve trop durs, que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en sont jamais plus. Eh bien, je crois que l'admiration de la beauté des œuvres de Dieu s'accompagne, pas d'une haine contre tout ce qui vient caricaturer, abîmer, salir. Comme disait Claudel, encore je crois, il faudrait avoir une intelligence dure et un cœur tendre. Une intelligence dure qui n'appelle pas laid ce qui est beau et puis qui n'appelle pas beau ce qui est laid, etc. Qui, pas de confusion, pas d'amalgame. Il y a en même temps un cœur tendre, comme Jésus, qui allait vers les marginaux, les pécheurs, les publicains, les prostituées, plutôt vers les professionnels de la vertu. Les tombeaux qui sont magnifiques à l'extérieur et pleins d'os de pourriture à l'intérieur. Et puis alors ça termine par « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Nous sommes faits pour le rebondissement dans l'action de grâce. Et je crois qu'on verra de plus en plus que l'action de grâce, c'est la clé de l'harmonie universelle. Le monde crève de ce qu'on oublie Dieu, on le marginalise et on inhibe les dynamismes affectifs les plus profonds de notre être qui est fait pour rebondir vers Dieu. Et vous savez ce que ça veut dire le mot juif ? Vous avez quelle racine ?
Louer.
Louer. Le hodots, hein ? Todaraba, c'est comme ça qu'on dit merci. Et comment est-ce qu'on dit merci en grec ? Eucharistei. On est fait pour la bénédiction, mais le mot bénir, là, c'est tellement banalisé, mais pour le rebondissement de tout notre être dans l'action de grâce, en écho à la parole de Dieu, qui est faite pour descendre jusque dans nos entrailles. Enfin, lente par l'oreille, ta loi au fond de mes entrailles, et puis ensuite que tous mes os se mettent de la partie quand il s'agit de ta louange, que toutes mes tripes, même, kol keravai, kol atzmotai, en hébreu, tout l'être est fait pour rebondir vers Dieu. Alors le langage résume toutes les possibilités d'expression de l'être, mais c'est pas mauvais que le langage, là, mobilise toute une orchestration, là, c'est tout l'être, et je crois que les gosses, là, c'est bon, dès le début, de leur apprendre ça. Et nous traitons avec condescendance certaines civilisations dites primitives, en fait, ont peut-être à apprendre d'eux, nous qui sommes victimes de l'algébrose, pas du langage exsangue, anémier, il faudrait retrouver peut-être à leur école ce langage qui mobilise toutes les possibilités d'expression qui sont en nous. Alors géographiquement, après avoir roulé si longtemps, nous voici dans la montagne des Lattes, qui forme une entité géographique tout à fait spéciale, à la charnière du Negev si monotone qu'on a traversé là, et puis du Sinaï. Et par certains côtés, c'est plus beau que le Sinaï. Il y a une espèce de contraste sur une surface limitée entre ce qu'il y a de plus ancien sur la planète, le précambrien, comme on lit dans les livres, des montagnes cristallines, des grès continentaux, là, et puis en même temps ce qu'il y a de plus récent, des couches marines, tout ça chamboulé par différents mouvements tectoniques, je suis bien capable de vous expliquer. Mais en tout cas, quand le soleil joue dans ces montagnes des Lattes, on a des effets étonnants de lumière. Là, on voit la mer rouge toute bleue entre les montagnes multicolores. On ne peut pas être mieux qu'ici pour prendre les choses au commencement. Dans la pédagogie divine, ce qui me sert de guide tout au long de cette retraite, c'est ce fameux chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. L'humanité qui se met en route par la foi en la parole de Dieu. Et ça commence par la foi. Nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Alors on prend les choses au commencement. Comment dire Dieu ? C'est une question que se pose beaucoup. Il y en a qui disent, mais Dieu, puisqu'il est le créateur, on ne peut rien en dire. Il est tout autre. Il est différent de tout ce qu'il a créé. Alors comment est-ce qu'on peut en parler ? Et il y a des théologiens, là, comment est-ce qu'on les appelle ? Les gens qui disent qu'on ne peut pas parler de Dieu puisqu'il est tout autre. Les apophatiques. Il y en a d'autres alors qui manient chose de plus subtile. l'analogie. Et ça, c'est plus dans la ligne de la Bible. Ben, Saint Paul, qui est héritier de la littérature de sagesse, lit « Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » Si on était vraiment intelligent, intus legere, capable de lire à l'intérieur, eh bien on déchiffrerait quelque chose de Dieu dans ses œuvres, qui porte sa marque. On déchiffrerait le caractère de Dieu un peu comme un graphologue déchiffre le caractère de quelqu'un à partir de son écriture. On est appelé à s'émerveiller devant tout ce que Dieu a fait. Et on fait l'expérience, alors dans la Bible, dès le début, ça c'est une des caractéristiques de Dieu. Hein. C'est toujours le même Dieu qui parle dans toutes ces façons de parler que nous allons passer en revue. C'est un Dieu qui fait éclater nos idées par haut et par en bas. La hauteur des montagnes et les profondeurs de la mer. La hauteur des montagnes, vous avez pu le voir tout à l'heure, le temps n'était pas aussi clair que souhaitable, mais enfin quand même, cette extraordinaire vue de la mer Rouge à travers les montagnes de Latte, hein, les hauteurs des montagnes. Et puis tout à l'heure, vous allez pouvoir descendre dans le musée aux poissons, vous verrez les espèces les plus étranges, pas des poissons des mers du Sud, dans les coraux, c'est tout à fait extraordinaire. Dieu nous fait éclater nos idées déjà dans ce premier langage de la nature. Il fait éclater nos idées par haut et par en bas. On verra ensuite qu'il les fera éclater par en haut, plutôt dans l'Ancien Testament, dans les éclairs et dans le tonnerre, et dans le Nouveau Testament, plutôt par en bas. La crèche, la croix, les paraboles, et puis la vie cachée. Vous savez, c'est un Dieu immanent et transcendant, et alors chaque fois qu'il intervient dans notre histoire, ça fait partir le plafond et le plancher en même temps. C'est toujours beaucoup plus sublime qu'on s'y attend, mais c'est aussi, et il faut se méfier surtout de ce côté-là, beaucoup plus banal aussi qu'on ne l'attend. Et on devrait se méfier de tout sublime qui n'est pas banal, parce que les deux sont souvent inextricablement mêlés. Dieu s'infiltre dans notre vie comme ça, d'une façon extrêmement banale et sublime, tout à la fois. Alors, au commencement, et c'est pas par hasard qu'il y a ce fameux chapitre premier de la Genèse au commencement. Il commence par la lettre B, alors dans la tradition juive, on dit que la lettre A, qui est la première, Aleph, est jalouse. Il dit, ah, pourquoi pas moi? Alors les rabbins disent que le B a cette forme-là, enfin, je la dessine, vous la... comme ça c'est fermé de tous les côtés, sauf du côté où ça commence. Autrement dit, tu ne poses pas de questions, oh, tu perds ton temps si tu te demandes ce qui est au-dessus, ce qui est derrière, ce qui est en bas. Commence par là, et puis tu n'as pas trop de ton existence pour déchiffrer tout ce qui est dit à partir de là. Alors ce texte, si vous le lisez, ce chapitre est composé d'une façon mathématique autour du chiffre 7. Et alors les gens s'arrêtent à la fin du chapitre premier. Et justement, le septième jour, alors que tout converge là, est au chapitre 2. De mots, de ces numéros, de chapitres et de versets. Parce que ça n'a aucune valeur théologique, hein, il faut le savoir. Il ne faut pas croire que parce qu'on change de chapitre, on change de sujet. Hein. Le gars qui a divisé la Bible en chapitres, c'est un certain Étienne Langton, qui vivait au XIIIe siècle, en 1226. Et celui qui a divisé en versets, c'est un certain Robert Estienne. Il voyageait en diligence, là, de Lyon à Paris en 1551. Alors pour occuper ses loisirs, il a divisé la Bible en versets. C'est pratique pour s'y retrouver, mais ça n'a aucune valeur théologique. Hein. Alors ce chapitre est extrêmement important. Il est charpenté sous le chiffre 7 et vous allez voir que cette charpente du chapitre là va se refléter partout dans les autres parties de la Bible. C'est toujours 6 et 7. On fait 6 fois le tour des murs de Jéricho, le 7e fois. C'est le rythme de la semaine, le Shabbat. Extrêmement important de montrer ça. Alors, il semble bien que ce chapitre est très tardif et qu'il ait été rédigé à une époque où le judaïsme était en contact avec les Perses. Vous savez que Cyrus a vaincu les Babyloniens, a permis la rentrée des Juifs en Terre Sainte, à Jérusalem. Ils étaient en contact avec les Perses et les Perses ont élaboré une religion dualiste. Bon, le problème du mal est tellement obsédant dans l'humanité que ils en arrivaient à poser deux principes. Il y a le bien, un principe bon, et un principe mauvais, qui sont égaux, qui luttent dans l'histoire. Et la tradition juive, à ce moment-là, éprouvait le besoin pas de nier ça d'emblée. Et même dans le prophète Isaïe, on a Borera, le deuxième Isaïe qui crée, il a créé le mal. Dans la liturgie juive, on dit Borerocher, il a créé les ténèbres. On le souhaitait qu'il a créé le mal. Mais on tient Mordicus qui a qu'un seul principe, et que c'est bon.
Et le texte, il est rythmé par « Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon. » Et à la fin, « Et Dieu vit que cela était très bon. » Et je ne sais pas si vous savez qu'une des tentations les plus constantes tout au cours de l'histoire de l'humanité, c'est justement ce dualisme. Et peut-être même que nous en sommes victimes, consciemment ou inconsciemment. On le trouve partout, dans des gnoses malsaines, dans des méfiances contre des valeurs de la nature, de la sexualité, du mariage. Et Saint-Dominique, quand il a fondé son ordre dans le sud de la France, là, en Albigeois, il était précisément affronté à une sorte de résurgence de cette hérésie dualiste, des cathares. Saint-Dominique a été un homme extrêmement austère, mais son austérité n'était pas du tout une méfiance des valeurs naturelles, c'était une imitation de la souffrance et de la croix du Christ, la souffrance rédemptrice, mais sans aucune méfiance vis-à-vis des valeurs de la nature, et tout est bon. Et alors, la Bible a éprouvé le besoin de poser ça d'emblée pour pouvoir ensuite accompagner la condition humaine jusqu'au fond de l'absurde, jusqu'au fond du mal. Je ne crois pas qu'une littérature qui ait accompagné l'humanité plus loin dans l'absurde. Lisez le livre de Job, lisez le livre de Coëlette, lisez certains psaumes. Encore une fois, c'est une littérature qui accompagne la condition humaine jusque dans la mort, dans la certitude qu'elle a affaire à un Dieu capable de mener par-delà la mort. Alors on affirme que d'emblée, dès le début, que Dieu a tout fait bon pour qu'ensuite on puisse aborder le problème du mal et aller jusqu'au fond du problème sans jamais l'éluder, sans jamais pouvoir l'expliquer non plus, mais sans que jamais ça devienne un doute. Je ne sais pas si vous voyez la différence qu'il y a entre un problème et un doute. Et le cardinal Newman disait que 1000 problèmes ne feront pas un doute. C'est justement parce qu'on a la foi qu'on se pose des problèmes. Si on n'a pas la foi, on ne se poserait pas de problème. Parce qu'on a la foi, on se pose des problèmes. Mais tous les problèmes que nous nous posons, et on s'en posera tout au long de l'existence, et nous trouverons heureusement cette littérature qui nous accompagnera dans tous les imprévus, toutes les douleurs, tous les scandales de l'existence, des situations épouvantables, intolérables, eh bien vous trouverez dans la Bible une littérature qui vous accompagnera jusque-là. Mais sans que jamais votre foi soit mise en question. Votre foi en un Dieu qui mène par-delà la mort. Vous sentez l'importance de ce chapitre-là. Alors, c'est pas par hasard qu'il est au début de la Bible. Et c'est pas parce qu'on a mis longtemps à comprendre qu'il fallait commencer par le commencement, c'est pas parce que ce texte est tardif qu'il ne faut pas commencer par là. Vous sentez ça, l'importance de ce texte ? Commençons par le commencement. Et puis en même temps, il ne faut pas faire bon marché de ce qui est cher à Dieu. Jésus, dans l'évangile, dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Et ce premier des langages, comme tous ceux qui suivront par la suite, ne seront pas abolis par le langage parfait que parlera le Verbe incarné à la plénitude des temps. Alors, ce langage est toujours actuel. Moi, je souhaite fort que vous alliez au musée aux poissons, là, que vous y passiez au moins une heure, à descendre dans la tour, là, qui permet de les rejoindre dans les coraux, là, à 12 mètres de profondeur, et puis en regardant de tout près dans les vitrines les espèces les plus extraordinaires des poissons des mers du Sud. C'est invraisemblable. Nous avons tous besoin d'avoir l'émerveillement réveillé. Nous sommes tous des abrutis, des petits bourgeois, par rapport à la nature. Heureusement que dans le caractère artificiel de la vie civilisée, comme on dit, il y a un remède actuellement, c'est ces possibilités qu'on a à la télévision ou dans la nature de voir des voyages extraordinaires, des commandants Cousteau, des choses comme ça. On a besoin de retrouver l'émerveillement. Or, comme l'émerveillement est terriblement atrophié, pour revitaliser cette faculté d'émerveillement, on a besoin d'exceptionnel. Alors, dans la montagne de l'art, on a tout ce qu'il faut pour réveiller l'émerveillement dans l'exceptionnel. Ensuite, alors, ça sera peut-être moins beau, mais on sera appelé à exercer cette faculté d'émerveillement dans la banalité de l'existence. Et dans le Nouveau Testament, alors, dans l'humilité de la condition que Dieu a prise dans sa vie cachée, dans son incarnation, sa naissance dans la crèche, dans la croix. Un Dieu qui fait éclater nos idées par haut et par en bas, encore une de ses caractéristiques qu'on va retrouver partout.